Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un accord commercial global entre l'Europe et le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année. Pas sûr, déclarait Emmanuel Macron samedi. Les enchères montent avant les négociations en mars, mais qui a vraiment l'avantage?
Bien, une chose est sûre, c'est que les positions ont été vivement soulignées ces derniers jours. Hier encore, Londres reprochait ouvertement à l'Union d'être paralysée par l'indécision. Et puis surtout, les buts semblent difficilement compatibles, puisque le gouvernement de Boris Johnson rejette la réglementation européenne serrée et préférerait un accord de libre-échange de type Canada ou à défaut les règles de l'OMC avec certains droits de douane comme c'est le cas de l'Union européenne avec l'Australie. L'Union européenne, elle, veut un accord sur l'accès aux zones de pêche avant tout accord commercial et puis l'équité dans les règles. Alors le Royaume-Uni qui envoie environ 50% de ses exportations vers l'Europe pourrait paraître isolé, voire désavantagé, mais c'est le contraire, soutient en tout cas Stéphane Madol, professeur d'économiste à l'INSEC HE.
Moi, je pense que le risque du dumping est réel. Alors, est-ce que le Royaume-Uni pourra imposer un accord? Je ne pense pas qu'il pourra imposer un accord. Mais la négociation sera très difficile. Et la négociation va s'établir sur quelques secteurs, sur la pêche, peut-être la libre circulation des personnes, et sur quelques produits. Mais je ne vois pas de possibilité d'avoir un accord global. Même si Boris Johnson dit qu'il veut un accord global dans l'année qui suit, bon, actuellement, il jouit d'une situation où il est pratiquement en libre-échange avec l'Union européenne, et donc il a la possibilité de faire traîner après d'autres négociations dans le temps et en continuant à bénéficier de cet avantage du libre-échange. Quand on regarde le commerce extérieur, il est plutôt au désavantage des Britanniques dans le sens où les exportations britanniques sont beaucoup plus faibles que les importations britanniques de produits européens. Et donc l'Europe communautaire a plus à perdre que le Royaume-Uni. Sur le plan financier, bon, bah, pour l'instant, la livre a effectivement, c'est un tout petit peu dévalué de 10 à 15%, mais reste une monnaie quand même de référence sur le plan international.
Face à cela, la stratégie de l'Union européenne sera mieux connue demain. Les dirigeants doivent valider le mandat de négociation de Michel Barnier.
Oui, un mandat qui avait été renforcé il y a une semaine en élargissant les domaines de jeu équitable, hein, justement, avec les mêmes règles, et même en incluant une demande de restitution de biens culturels, les frises du Parthénon au British Museum. Alors, moyen de pression ou parasite dans les négociations, c'est à voir. De son côté, en tout cas, le Royaume-Uni s'est activé depuis 2017. Il a signé une vingtaine d'accords de libre-échange et obtenu des partenariats préférentiels avec le Commonwealth.
On passe au bref, un autre gros accord commercial attendu ou hypothétique, c'est celui entre New Delhi et Washington. Donald Trump est aujourd'hui en Inde.
Oui, c'est même un accord fantastique que promet le président américain dans la même rhétorique que pour décrire l'accord avec la Chine. Là encore, Donald Trump entend réduire le déficit commercial, c'est 25 milliards de dollars. Mais rien ne dit que la bataille du America First contre le Make in India, comme elle est appelée par certains, prenne fin demain. Les sujets de contentieux, agriculture, santé, numérique sont trop nombreux. Et pour l'instant, la rencontre avec Narendra Modi se solde par un contrat militaire de 3 milliards de dollars en faveur des États-Unis et l'espoir pour les travailleurs indiens d'un assouplissement des visas américains.
États-Unis toujours, une étude intéressante sur les soutiens de Wall Street aux candidats pour la présidentielle et sans surprise.
Sans surprise, oui, puisque c'est Bernie Sanders qui a reçu le moins de soutien financier, 1 700 000 dollars sur 108 millions provenant de la finance, assurance et immobilier. En comparaison, Pete Buttigieg en reçoit 4 400 000, Donald Trump 2 700 000. Sanders, jugé par un financier plus dangereux que le coronavirus pour Wall Street, même si, selon l'AFP, et là c'est intéressant, des milliers de salariés de Wall Street et même des gestionnaires de fonds n'ont pas tous le point de vue des grands financiers, mais ils seraient muselés, selon l'un d'eux.
Et les bourses mondiales qui s'effondrent justement en attente de plus de nouvelles sur le coronavirus?
Oui, une nouvelle fois, des chutes de 3 à 4% dans toute l'Europe. Même chose pour les cours du pétrole. La conséquence donc de ce nouveau seuil de propagation du coronavirus franchi hier, 231 contaminations en 24 heures. Donc une volatilité des marchés. La dernière chute des bourses il y a quelques jours avait cessé en fait quand la courbe de contamination s'était aplatie.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Une réaction, Marie-Françoise Renard, Alice Ekman sur ce journal de l'Écho.
Je crois que l'Inde veut le soutien de Trump vis-à-vis de la Chine et essaye de contrebalancer un peu le poids de la Chine dans la région et aimerait bien avoir des relations apaisées avec les États-Unis et un peu meilleures que la Chine qui reste le partenaire privilégié des États-Unis quand même.
Mais et ça là, intervient à un moment où la Chine est affaiblie, oui. Alice Ekman.
Et puis il y a le panorama géostratégique, puisqu'il y a ce concept d'Indo-Pacifique qui inclut l'Inde, les États-Unis, l'Australie, mais aussi la France, parmi d'autres partenaires et les États-Unis, qui essaient de développer leurs relations militaires, leur partenariat politique et à terme aussi en termes d'infrastructures économiques. Donc on a différents rapports de force avec une alliance américaine qui tente de se renouveler par différents biais, notamment avec l'impulsion du Japon, qui était mécontent du retrait du Trans-Pacific Partnership, d'accord de libre-échange en Asie-Pacifique il y a quelques années, qui essaie de le revigorer. Et puis de l'autre côté, la Chine, qui essaie de développer ce qu'elle appelle son cercle de pays amis, en brouillant finalement un peu les pistes de l'alliance, et en proposant ses initiatives, dont les nouvelles routes de la soie, dont la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dont le forum des routes de la soie, etc., à un nombre croissant de pays, y compris les alliés des États-Unis. Donc,
nouvelle route, nouvelle route de la soie dont on reparlera demain. Merci beaucoup, Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.